Acte 2. L'émission d'entrevue de l'association du passage à l'acte. Nous sommes aujourd'hui à Dulin, près du lac d'Aigbelette, pas loin de Chambéry, pas très loin de la Suisse, ni de l'Italie. Nous sommes au château partagé, comme son nom l'indique. Nous sommes dans un château à flanc de colline, une maison de maître avec de bien belles tourelles. C'est un habitat partagé, un lieu où ceux et celles qui y vivent ont choisi de partager un peu plus que des réunions de syndic et des charges de copropriété. Autour de cette table de la salle d'activité du château, aujourd'hui, une partie de ses habitants, deux. Tout d'abord, Annick. Annick, bonjour.
Bonjour.
Et puis Pascal. Pascal, bonjour.
Bonjour.
Et l'association du passage à l'acte est représentée par Luca.
Bonjour.
Et Floem, votre serviteur, passeur d'assiettes et animateur pas très matheux. Que vous nous écoutiez en épluchant votre comptabilité ou vos légumes juste récoltés, vous êtes beau, alors ouvrez bien vos oreilles, c'est acte 2, c'est culturel et c'est parti. Bonjour. Bah pour commencer, depuis combien de temps le château existe Il y a deux aspects à cette question. Depuis combien de temps le rêve du château partagé existe? Et depuis combien de temps est-il effectivement concrétisé?
Le rêve du château partagé, il a commencé pour moi. Je pense que si on prend chaque individu séparément, il a commencé à un autre moment. Le rêve, il a commencé pour Thomas et moi, en fait, parce qu'on est en couple, en 2008. Et pendant un an et demi, on s'est réunis à peu près une fois par mois autour du livre « Vivre autrement » avec Diana Leaf. Et quand je dis « on », c'était un groupe qui a évolué, qui a bougé, qui n'est plus du tout le même que celui d'aujourd'hui. Pendant ces un an et demi, voilà, on a petit à petit mûri qu'est-ce que c'était que ce rêve, qu'est-ce qu'on était prêt à partager, qu'est-ce qu'on voulait vivre, est-ce qu'on voulait chacun un appartement, pas partager tout, avoir qu'une chambre, enfin voilà. Et en parallèle, on regardait des lieux qui pouvaient correspondre à ce rêve. Et là, le rêve s'est incarné en achetant la bâtisse à Dulin en 2009.
Donc, vous avez quand même pris le temps de réfléchir un peu au départ. Ça s'est pris, vous avez pris un an, c'est ça?
Oui, un an et demi.
C'est pas très long par rapport à d'autres habitats partagés?
Non, c'est vraiment assez court. Surtout qu'au moment d'acheter, en fait, il restait trois personnes qui étaient motivées pour acheter. Et puis, il y en a eu trois autres qui n'avaient pas du tout participé aux réunions, qui se sont greffées là. Donc, c'est vrai que l'énergie du départ, c'est un peu une énergie... C'était de l'instinct, quoi. En fait, on a trouvé cette bâtisse. Elle répondait à un maximum de critères, c'est-à-dire qu'elle n'était pas loin d'une gare, elle n'était pas loin de la montagne pour l'accompagnateur moyenne montagne. Donc, pas loin d'une gare, ça permettait de gérer la transition, continuer un peu nos boulots sur Chambéry avant de s'intégrer ici. On avait rencontré le maire avant d'acheter qui était super réceptif et qui nous avait dit « Oui, 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 on connaît, je connais l'habitat groupé, j'ai envie de créer une maison de jeunes aînés pour mon village. » Enfin, voilà, on s'est dit « Ok, allez, c'est là. » Et c'était un peu fou, en fait, parce que il y a au départ Fabien Girardier qui a acheté sans avoir même visité la maison. Enfin, voilà. Ouais. Mais il y avait un truc de posé. On avait posé quelque chose quand même pendant un an et demi, donc il y avait un document prêt que Fabien avait quand même lu, mais voilà, il a signé sans lire. Et même le compromis, on l'a signé à 7, et le 7e, il n'était jamais venu là, on l'avait jamais rencontré, il habitait à Mulhouse, c'était un copain d'un copain. Finalement, il s'est désengagé, mais enfin, c'était un peu fou au début.
Oui, il y avait pas mal d'enthousiasme.
Ah ouais, ouais.
En même temps, vous avez été bien reçu, d'après ce que j'ai compris, par la mairie. Le voisinage, vous avez bien accueilli aussi ou...
Ouais, ouais, on a été super bien reçu. Tout de suite, quand on est arrivé, le maire nous a proposé de faire un article dans le bulletin municipal, chose qu'on a faite. Et puis, on avait cette volonté-là de garder nos portes ouvertes. Donc, les deux, trois premières années, on a fait beaucoup d'animations pour se faire connaître.
Et je sais que Thomas... est devenu conseiller municipal, en tout cas il est rentré à la mairie, ça a changé quelque chose ça?
Ça a changé quelque chose pour...
Au niveau, est-ce que ça a changé quelque chose pour l'habitat groupé, que vous ayez l'un des membres?
Non, ça n'a rien changé, non.
Combien il y a de personnes qui vivent ici?
Aujourd'hui, il y a 5 foyers, ça représente 10 adultes et 6 enfants plus un en route, qui arrivera l'été prochain, et puis il y a une population animale autour.
Et végétal.
Et végétal aussi.
C'est quoi le nombre optimal en fait? Combien de personnes vous imaginez pouvoir vivre ici? Vous avez déjà pensé à ça ou pas encore?
7 foyers, on va voir, c'est un test. Ouais, moi, je dirais 7 foyers. Là, on est à 6, c'est ça?
Là, actuellement,
là, on est à 5, donc 7, ouais. Pour moi, 7 foyers pour moi. Et toi?
Moi, je dirais presque un peu plus. Après, il y a un truc particulier ici qui est qu'on mélange de l'habitat et des activités professionnelles. Mmh. Et les activités professionnelles, on peut d'une certaine manière les regarder comme des habitants. C'est-à-dire, on a aujourd'hui une structure qui fait de l'accueil de groupe. Mmh. Voilà, c'est une activité qui prend de la place. Quand même. Mais moi, je dirais un peu. Ouais, j'irais jusqu'à 8, je crois. 8 en habitat.
Oui, on va revenir sur la question de ce qui se passe au château, en plus d'un habitat partagé. En ce qui concerne les personnes encore, est-ce que vous avez un protocole d'acceptation, d'intégration des nouvelles personnes?
En fait, au départ, dans la folie du départ, l'enthousiasme, on va dire, c'est plus... L'enthousiasme du départ, on n'avait pas du tout de protocole d'intégration, ni de départ d'ailleurs. Et là, on en a souffert, en fait. On en a vraiment souffert fin 2012. Et là, à partir de cette expérience-là, avec des départs un peu difficiles et puis des arrivées aussi où on s'est trompé, on a mis en place là un protocole d'arrivée, d'intégration. Enfin, donc ça, c'est en place. Après, c'est l'habitat groupé aussi, ça m'apprend que tout est mouvement. Donc là, ce qui est posé, finalement, c'est déjà quasi obsolète, mais c'est à remettre... toujours à remettre au goût du jour, mais en tout cas, il y en a un. Et puis, il y a aussi la volonté de... Aujourd'hui, on est propriétaire de part de SCI et on a envie de devenir...
SCI, c'est quoi?
Société civile immobilière.
D'accord, c'est le format que vous avez inventé qui permet de posséder la maison.
Ouais, ouais. D'accord. Et on a envie de devenir locataire, plutôt, pour faciliter ça, les entrées, les départs, parce que c'est plus fluide, en fait, d'être locataire. Mm-hmm. Ben, ça répond à ta question.
Si, ça répond à ma question. Savoir, en fait, vous êtes plutôt sur un mode. Il y a une question de souplesse et puis d'adaptabilité.
Ça peut se poser aussi d'une autre manière. C'est-à-dire qu'il y a. Quand tu demandais jusqu'à combien de personnes on peut accueillir ici, ça peut se faire sur plusieurs plans. C'est-à-dire quelle taille de groupe on se sent gérer en vie ici. Mm-hmm. Ça peut se poser en capacité du bâtiment. Combien on peut faire de logements? Par exemple, ça peut se poser également en structure juridique ou en je sais pas quoi. Mais il y a dans ce que disait Annick, cette notion d'être locataire ou d'être propriétaire. En fait, aujourd'hui, pour la plupart, on est ici pour habiter. Habiter, ça, c'est quelque chose qu'on a envie de vivre. Et il se trouve qu'aujourd'hui, pour habiter, en fait, il faut passer par un projet immobilier. Et faire un projet immobilier, c'est quand même très différent et souvent beaucoup moins sexy que d'habiter dans un habitat partagé. Et ça pose plein de contraintes et c'est pas très souple. Donc, en fait, la piste qu'on creuse aujourd'hui, c'est de quelle manière on peut faire en sorte que habiter ici, ce soit surtout habiter ici et pas gérer une entreprise, gérer un projet bancaire, un projet immobilier, etc. Tous ces trucs qui nous alourdissent.
Oui, et en même temps, ce que disait Diana Alif, elle le dit souvent, c'est que les habitats qui réussissent, c'est des habitats qui ont aussi des très bonnes compétences du point de vue cerveau gauche, gestionnaire, carré, comptabilité, banque, architecture, gestion... Vous avez commencé à aborder la question de la vision, en fait. Est-ce que vous avez une vision commune? Est-ce que vous avez mis en place quelque chose de ce point de vue-là? J'ose même plus utiliser le mot projet, parce que ça me fait mal d'utiliser le mot projet pour tout un tas de raisons à cause de la langue de bois. Mais est-ce que vous avez une vision partagée au château partagé? Déjà formalisée ou peut-être existante, mais pas forcément formalisée? C'est quoi vos valeurs communes, en fait?
Alors là, dans notre histoire, comme on a fait un peu les choses... on les a fait dans cet ordre-là, c'est-à-dire que les groupes, en général, ils mettent 7-8 ans à poser leur vision, à mûrir leur truc. Là, nous, on s'est dit, allez, on y va. Et là, on est en train de la mettre en place depuis 2012. Là, on est en début 2015. Donc, en octobre, là, octobre 2014, on s'est pris le temps de 2 journées pour se dire mais on va poser cette vision. Alors c'est vrai que on la pose avec l'expérience de ce qu'on a vécu, qui est certainement différent d'essayer de la poser avant de se mettre en route. Ce qu'on a posé aujourd'hui, c'est faire société. Voilà, notre vision ici, c'est faire société dans la considération des autres et de soi-même. Aujourd'hui, on a posé ça.
D'accord. Et je peux vous demander ce que ça peut vouloir dire, que faire société, ou c'est déjà c'est trop précoce? Pascal, t'as envie de dire quelque chose?
Moi, je peux dire comme je le comprends. Après, ouais, il y a tout un travail qui est de savoir qu'est-ce qu'on comprend.
Qu'est-ce que chacun le comprend? Comment chacun le comprend? Vas-y, je dirai après. Moi,
moi aujourd'hui, je le vis comme essayer de vivre à petite échelle, c'est-à-dire à l'échelle d'un micro-territoire, à peu près tout ce qui fait une société, c'est-à-dire on habite, on travaille, on a différents secteurs d'activité très variés, donc peut-être qu'on en reparlera, différents types d'activités économiques, des activités culturelles, etc., et de mettre tout ça à petite échelle et de voir comment ça peut plus que cohabiter, même s'enrichir mutuellement.
Et aussi, on a des enfants, d'en faire société. Bah, oui. On habite, on travaille, on a des enfants, et on est ouvert sur l'extérieur. Enfin, comment être soi-même avec l'extérieur et tout ce qu'a décrit Pascal. Pour moi aussi, c'est ça. Bah, c'est bon.
Après, c'est bien.
C'est bon, à peu près okay, ça.
Et là, on n'a que deux habitants du château.
Et aussi, en fait, j'ai envie d'ajouter, dans les activités pro, il y a aussi la volonté qui est tous les secteurs, c'est-à-dire artisanat, intellectuel. Enfin, voilà. Il y a l'agriculture, il y a des bureaux de design, il y a des bureaux d'ingénierie. Enfin, voilà. C'est ça, faire société.
Bah tiens, puisqu'on est sur ce domaine-là, il y a quoi d'autre qui se passe à part l'habitation sur le lieu du bureau de design? Je sais qu'il y a de l'agriculture, parce que vous avez du maraîchage.
Vas-y.
Ta question sur les activités économiques.
Oui, ma question est plutôt sur les activités économiques, pour l'instant.
Donc, la plus importante, elle est non économique, effectivement, c'est les enfants. C'est une activité non économique, mais c'est une vraie activité. Il y a une activité d'accueil. Là,
en quoi c'est la plus grande activité?
Là, je réponds pour moi. C'est la vie personnelle.
Ça me va.
C'est structurant sur l'ensemble de nos questions de société. La manière dont on conçoit l'éducation, dont on vit avec nos enfants. On a parlé de faire société, c'est les enfants. Il y a quelqu'un comme Christian de Rochefort qui dit que c'est un peuple largement opprimé. Voilà, de quelle manière on vit à côté de ces gens qui sont à la fois très semblables et très différents de nous. Donc c'est un vrai projet. En soi, c'est quelque chose de très important et très fondateur.
Rappelle-nous combien il y a d'enfants ici?
Il y a 6 enfants plus un en route.
D'accord, donc pour 10 adultes.
Pour 10 adultes, et ils ont entre 3 et 7 ans.
Ah, mais donc c'est une minorité opprimée qui est bientôt plus trop minoritaire.
Oui, ils sont...
Vous méfiez.
Ouais.
Et donc sur les activités économiques?
Donc sur les activités économiques qui génèrent du chiffre d'affaires.
Bah, du pognon. Donc,
il y a du maraîchage, donc une activité agricole. Il y a de la boulangerie. Il y a 3 activités, hier soir on discutait encore sur le bon terme, du tertiaire, des activités de service. Donc il y a un bureau d'études énergétiques, un coach et un bureau de design. Et il se trouve qu'en plus, on a beaucoup de gens multi-actifs. Voilà, certains font d'autres métiers en plus.
Le bureau de design, il fait aussi accompagnateur moyenne-montagne.
Et le bureau d'études fait également musicien. Et il y a également une activité d'hébergement, d'accueil, d'organisation de stages et d'événements culturels.
Il marche pas ton pipi?
Si, mais je le trouve trop petit. Alors j'en rajoute. Et j'ai une croyance qui me fait dire que faut pas mettre trop d'eau.
Non, si t'en mets trop, après il y en a trop.
On peut pas mettre trop.
Ah, on peut pas mettre trop?
Non.
Savoir-faire qui
n'est pas dans les livres. Mmh.
La
musique, on a pris
les
fours.
Des kilos de farine brûlée.
Pour maîtriser
des dizaines de pains pas cuits.
Les premiers pains étaient noirs.
Vous cherchez à encourager le travail sur le lieu?
Je ne sais pas dire si on l'encourage. Il se trouve que il y a quelques personnes qui travaillent sur l'extérieur. C'est pas majoritaire et souvent les gens qui travaillaient à l'extérieur, Annie, tu sauras mieux dire peut-être, mais il y a eu plutôt une démarche de se recentrer sur le lieu et de redévelopper quelque chose sur place. Mmh. C'est plutôt ça la dynamique.
En fait, on a acheté la bâtisse avec la SAFER.
Qu'est-ce que c'est la SAFER?
Alors la SAFER, je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais la SAFER, c'est l'organisme qui s'occupe d'acheter et de vendre les terres agricoles. Et aussi, là, il se diversifie dans maintenir une activité rurale. Donc quand on a acheté la bâtisse, il y avait, nous, le projet qu'on avait écrit pendant un an et demi, là où l'intention, c'était de vivre dans nos campagnes, enfin d'arrêter de dormir juste à la campagne et puis d'aller bosser en ville. Il y a quand même cette intention-là de redynamiser la ruralité.
Et du coup, ça rentre dans le cadre de la SAFER.
Ouais, voilà. Et donc, ça rentre dans le cadre de travailler là plutôt que de travailler ailleurs. En tout cas, pas loin d'ici, quoi.
Est-ce que vous avez une réflexion commune sur l'argent, sur la place de l'argent dans le lieu? Parce que c'est souvent une des questions assez importantes dans les habitats groupés, la question de comment on paye. Tiens, bah, par exemple, est-ce que vous mettez en commun vos salaires et vos entrées d'argent?
Non, on ne fait pas ça. Alors, moi, je dirais que c'est une réflexion qui est débutante, en fait. Le fait de discuter, de se prendre des soirées où on discute de l'argent, de combien gagne chacun, c'est quoi la réalité économique, comment fonctionne le monde de l'agriculture, comment fonctionne le monde du conseil. Le mot euro ne veut pas dire les mêmes choses. C'est des systèmes très différents qui naviguent sans se connaître, sans se rencontrer. Et ça, c'est très nouveau. Ça fait pas 6 mois, finalement, qu'on aborde ça. Donc, il n'y a pas de mise en commun des revenus. Et puis, les activités économiques sont... Les gens sont autonomes sur les activités économiques.
D'accord. C'est-à-dire... En fait, il n'y a pas d'interconnexion. Chacun travaille dans son coin. C'est ça que tu appelles autonome?
Ouais, c'est-à-dire qu'il n'y a quasi pas, à part l'activité, on va dire, hébergement, d'économie générée par le lieu. Aujourd'hui, on est plutôt dans une... Il me semble, hein, on est plutôt dans une logique où les activités habitent sur place, les gens travaillent sur place, mais ce n'est pas une économie générée par le château partagé. Il n'y a pas de richesse économique générée par le château partagé.
Et quand vous faites de la location de salles,
à part
ou
celle-là.
De gîte, ou...
Voilà, à part celle-là.
Ou quand bien même... Je ne sais pas, parce que le four à pain, ouais. Est-ce que le château partagé loue au boulanger le four à pain ou pas?
Donc, c'est pour ça que Pascal disait que c'est une réflexion qui est débutante. Ouais. Pour l'instant, il y a quelques conventions qui ont été réalisées. On n'a pas terminé de les faire pour chaque activité. Après, là où aussi la réflexion sur l'argent elle est débutante, c'est que on est en train de se demander si on ne met pas en place un système d'échange, genre système jeu, jardin d'échange universel. Il y a aussi une réflexion là, qui est menée sur le territoire sur la monnaie autrement. Il y a les élèves à Chambéry. Voilà. En fait, l'argent, finalement, c'est la question des échanges. Comment on valorise un échange? Est-ce qu'on le fait avec l'argent? Est-ce qu'on le fait avec un bail, avec un loyer? Et on est au début de la réflexion, parce qu'en plus, on est en train aussi de reposer nos structures juridiques. Parce que là, aujourd'hui, c'est l'association qui s'occupe de l'activité économique hébergement, qui génère un peu d'argent.
Une activité.
Voilà, qui est une activité. Est-ce que c'est durable? Est-ce qu'on peut continuer comme ça? On n'en sait rien. On est en train de mettre à plat et d'essayer de clarifier ça.
D'accord. Ouais. Pour les questions d'argent, on peut renvoyer à notre émission sur les monnaies complémentaires. On avait interviewé Nicolas Brier. Donc, si j'ai bien compris, il y a une SCI pour gérer l'immobilier. Il y a une association qui gère quoi?
Ça va changer. Mais on peut présenter le truc.
Jusque-là, ça gère quoi?
Je te laisse présenter, Pascal.
En fait, effectivement, là, ce qui se passe là maintenant, on est en plein milieu d'une vraie grosse transition, il me semble. Alors moi, je n'étais pas là aux toutes origines. Annick pourra repréciser, mais on est plutôt dans une mutation où c'est parti sur plutôt un collage de projets personnels, à la fois immobiliers et économiques, des choses mises côte à côte. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est une réorganisation complète, à la fois sur la gouvernance, le fonctionnement humain, le fonctionnement économique, les structures juridiques, tout ça se remet à plat, pour voir de quelle manière ça devient maintenant un système cohérent, le château partagé, qui génère sa propre économie.
C'est la refondation du Parti communiste?
C'est une refondation. Ben, en fait, le groupe, on s'est mis un groupe de travail qui travaille là-dessus, qu'on a appelé le groupe fondation.
D'accord.
Donc, on est dedans. Là. Donc, c'est pour ça que souvent, probablement, on va répondre sur les trucs il y avait, c'est en cours, on saura.
On reviendra dans 2 ans,
voilà.
Puis on saura. Et du coup, si je vous pose la question de la solidarité ou de l'intergénérationnel, c'est pareil, c'est à la fonderie, quoi.
Eh ben, alors je réponds sur l'intergénérationnel. Moi, quand on a rencontré le château partagé, donc nous, on est arrivé il y a 2 ans avec Delphine, mon épouse, et nos 2 enfants. On a remplacé un couple de retraités. Donc, nous, quand on a connu le château partagé, on pouvait voir de l'extérieur, on se disait, ouais, c'est intergénérationnel, il y a des trentenaires et puis il y a des gens 50-60. depuis qu'on y est. En gros, moi je suis le plus âgé, j'ai 40 ans, je suis le doyen.
Notre papy.
Et voilà, ça s'étale sur une dizaine d'années, donc on ne peut pas dire que c'est intergénérationnel. Et en même temps, on n'a pas écrit dans la charte aujourd'hui une volonté d'être intergénérationnel. Je ne crois pas qu'on l'ait mis.
Nous, au départ, on l'avait écrit. Voilà. Mais voilà, maintenant, c'est vrai que c'est plus vraiment le cas.
Ouais,
c'est moins pertinent là. Ouais.
Et puis, peut-être sur la question de la solidarité en cas de coup dur, est-ce que vous avez des éléments prévus déjà ou pas? Est-ce que vous avez une sécurité sociale interne?
Non, pas encore. Okay, peut-être ça viendra.
Okay.
D'en faire société.
On a un cercle d'aide aux parents.
D'accord.
Ouais.
Donc, il y a une SCI pour gérer l'immobilier, une association pour gérer, j'ai pas encore trop compris, le gîte, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se passent ici? Est-ce que vous avez fait appel à d'autres...
Au niveau juridique?
Oui.
Ben après, la boulangerie Thomas, il est salarié de Grappe. Alors, Grappe... C'est une coopérative.
C'est une coopérative d'entrepreneurs salariés dédiée au métier de l'alimentation.
Voilà, qui s'est créé il y a à peu près un an, qui gère 3 petits pois aussi à Lyon. Thierry, il a son statut de maraîcher agricole, statut agricole.
Moi, je suis également en coopérative. Mon bureau d'études est porté par une coopérative qui s'appelle Oxalis. Christophe, qui est accompagnateur en moyenne montagne, il est
en
entreprise individuelle. Enfin, comme je disais, les activités en fait sont autonomes, c'est-à-dire que chaque entrepreneur, on va dire, gère son propre statut.
Ouais, d'accord, vous n'êtes pas encore une coopérative de travail.
Non. Okay. Et l'association donc gère aujourd'hui en fait deux choses, des aspects disons purement associatifs de vie du lieu, d'organisation de journées portes ouvertes comme ça se passe aujourd'hui.
Oui, parce qu'il faut dire qu'on est aujourd'hui dans les journées européennes des habitats groupés et qu'on a profité du moment pour venir vous interviewer en public. Un large public, nombreux. Faites du bruit, ouais. Vous avez le droit, faites-moi. Bon, on leur a interdit de faire du bruit pendant l'émission. Là, c'était le moment où vous aviez le droit. Maintenant, c'est fini. Revenons au château partagé. La question du mode de gouvernance. Alors, c'est peut-être aussi en refondation, ça. Quel est votre mode de gestion pour le château partagé? J'ai rencontré Annick dans un stage de sociocratie, donc c'est un mode de gouvernance. Est-ce que vous avez mis en place votre propre chose à votre sauce, ou est-ce que vous avez plutôt pris quelque chose qui existe déjà? Est-ce qu'il y a un mode de gouvernance? Comment vous gérez en fait le château partagé? Bien, j'espère.
De mieux en mieux. En tout cas, on se cherche encore là sur sociocratie, holacratie, voilà, ça c'est pas encore posé. Pour l'instant, ce qui est vraiment posé, c'est que les décisions, on les prend par consentement, et quand on désigne des rôles, on les fait par des élections sans candidat. Ça fait depuis 2013 à peu près. Ça fait 2 ans. Sachant qu'au départ, on n'était pas très initié, qu'on a accueilli Guillaume Dorvaux qui bosse à l'UDN, qui est plus formé à ces questions. Donc
UDN, c'est
Université du Nou.
Ils font quoi, l'UDN?
Ils accompagnent, en fait. Ils accompagnent des groupes en transition.
D'accord.
Donc, ils transmettent les outils sociocratie, holacratie, gestion par consentement, et voilà.
Et du coup, pour l'instant, vous, si j'ai bien compris, vous faites à votre sauce, en prenant des outils un peu à droite à gauche.
Oui, c'est quand même proche de la sociocratie pour ce que j'en connais. Mmh. On fonctionne par cercle également. Donc il y a quand même plusieurs outils qui sont assez typiques de la sociocratie.
Ouais. Ouais, mais tu vois, on ne fonctionne pas encore avec les représentants, les doubles liens. Mais là encore, on est en train de bosser sur l'organigramme avec le groupe Fondation. Et on va y venir.
Il y a un paramètre un peu particulier. On est une taille un peu limite. C'est-à-dire qu'on est, on est 10 adultes. Mmh. 10 adultes, aujourd'hui, je crois qu'on a 6 cercles thématiques. Du coup, il y a un enjeu à avoir une organisation assez avec pas mal d'entités. Mais finalement, c'est un peu toujours les mêmes. Et du coup, c'est encore en calage.
Oui, parce que la sociocratie, ça fonctionne à partir de 12-13. Et là, on est encore un petit peu en dessous.
En ce qui concerne la vie quotidienne, comment vous décidez de l'équilibre public-privé-communautaire?
Je commence, tu compléteras. Mmh. Pour moi, la première frontière publique-privée, elle est que chacun a un appartement privatif. C'est-à-dire, pour le coup, ça pourrait ressembler à une copropriété. Enfin, sur la partie habitat, voilà, chacun habite chez soi, avec sa famille, sa vie familiale, sa cuisine, ses enfants qui... Voilà, on partage pas les enfants, on partage pas les femmes ou les hommes. Enfin, on fait comme... En tout cas, c'est pas, le lieu n'est pas organisé comme ça. Voilà. Chacun a sa vie familiale. Donc on croise ses voisins dans l'escalier, à la buanderie, quand on fait, voilà, comme ça peut se faire quasi n'importe où. Ça, c'est la première on va dire frontière publique-privée, puis elle est physique. Et puis ensuite, il y a la vie d'organisation. On a évoqué la gouvernance. On a des réunions. On a en gros une réunion par semaine de cercle. C'est le mercredi soir. Donc là où en général tout le monde se retrouve, tout le monde, les adultes se retrouvent.
On a la vie animale, ouais. Le chien qui dit bonjour au cheval, qui est en train de tracter Thierry sur sa charrette. Scène intéressante de la vie du château partagé.
Ouais.
Donc tout le monde se retrouve le mercredi soir.
Donc le mercredi soir, il y a réunion pour les adultes. Et puis sinon, ça se croise un peu spontanément dans les différentes activités pour entretenir le jardin, pour...
Après, dans ce qu'on partage, il y a l'entretien des extérieurs, il y a une bibliothèque, il y a la récolte de pommes, la récolte de noix. Donc on fait les jus de pommes, on casse les cerneaux de noix, on organise des grémaillés. Après, ta question sur les...
Les grémaillés ?
Ah oui, ils appellent ça comme ça ici, la grémaillée. C'est casser les noix.
D'accord.
En cerneaux, voilà, parce que ça prend du temps.
Oui. Vous aviez une buanderie aussi pas si elle est en commun.
Oui, elle est en commun, la buanderie. En fait, pour répondre à ta question, il n'y a pas de structure où on dit, voilà, on va manger ensemble tous les mercredis midi. Ou, enfin, on l'avait posé, puis en fait, ça ne marche pas. Donc, en été, on mange très souvent tous ensemble dehors. En hiver, peut-être un peu moins. Il y a une vie peut-être un peu moins dense collective. Enfin, il y a les grémaillés. Puis après, il y a toutes les soirées qu'on a, nous, envie d'organiser, soirées ciné... soirée couture, là, il y en avait une lundi dernier, soirée foot, voilà.
Et parce que vous avez aussi une grande salle commune, séparée de la salle d'activité dans laquelle nous sommes actuellement, qui est une salle où il y a, si je me souviens bien, une cheminée, des sièges, tout ça.
Ouais, c'est ça. Mm-hmm. C'est là qu'on fait les grémaillés. Il y a les fêtes des lanternes avec les enfants, on fait les lanternes, ça on fait chaque année. Voilà, on essaye... au fur et à mesure des saisons, d'organiser des temps collectifs et festifs.
Et puis les enfants se croisent beaucoup.
Ouais.
Ils ne sont pas tous scolarisés. Voilà, ça fait de la vie qui se croise. C'est assez courant quand on se retrouve avec 4 ou 5 enfants à la maison parce qu'ils ont décidé que c'était... aujourd'hui, c'est chez eux. Aujourd'hui, c'est là-bas. Ils gèrent assez bien les différents appartements, les stocks de jeux. Voilà.
Ils ne sont pas tous scolarisés parce qu'ils sont trop jeunes ou parce que c'est un choix ?
Les deux.
C'est un choix.
D'accord.
Oui, c'est un choix.
Il y en a qui choisissent, il y en a qui sont trop jeunes. Ok. Ouais, les questions d'éducation, ça a l'air d'être assez présent chez vous. Du coup, dans quelle démarche éducative vous êtes ? Êtes-vous dans une démarche éducative ou laissez-vous faire ce qu'il y a à faire tout seul ?
On a une heure et demie à peu près, c'est ça.
Non, c'est, enfin, on a 45 heures d'enregistrement.
C'est un vaste
possible.
Sujet. D'accord. Après, il y a deux échelles. Ce qui est intéressant avec l'habitat partagé, d'une manière générale, c'est qu'à peu près n'importe quel sujet finit à un moment par devoir être discuté ou devoir être débattu parce qu'on se côtoie. On a parlé de l'argent. À un moment, c'est utile de parler de l'argent, de comment ça se vit pour chacun, etc. Et pour l'éducation, l'éducation, les enfants, comment on vit avec des enfants, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, dans la cellule familiale, chacun a ses idées, ses envies, ses opinions, enfin, et puis ses comportements. Et puis, il y a comment on fait, nous, collectivement, pour que ce soit confortable, serein, qu'est-ce qui se passe quand tous les enfants sont dehors, mais comme ailleurs. C'est-à-dire, si je vais au jardin public, pourquoi des fois... il y a 15 enfants et les parents se comportent différemment et qu'il y a des jeux entre les parents. dans le dit, dans le non-dit, il y en a qui interviennent, il y en a qui interviennent pas. Et donc ça, ça se vit ici tous les jours. Donc on échange beaucoup. Ouais, sur...
Ok, on reviendra. Je sens qu'il y a du dossier en dessous. On reviendra exprès peut-être pour parler de ça à l'occasion. Il y a peut-être de quoi faire. Mais néanmoins, tu as laissé commencer Pascal, Annick, et du coup, maintenant, Annick, je vais te laisser continuer.
Donc, ta question, c'était dans quelle démarche éducative sommes-nous ?
Ah oui, j'ai pas répondu. Hein.
Oui, oui, j'ai bien vu qu'il avait botté en touche, c'est pour ça que je dis qu'on reviendra exprès.
C'était un préliminaire.
C'est un préliminaire, d'accord, c'est pour donner un avant-goût, c'est l'apéritif.
Non, je vais comment je vais répondre à ça.
Tu vas botter en touche aussi ?
Non, je vais pas botter en touche, mais... On chemine, on est en chemin. Là, nous, cette année, nos deux garçons, Yann qui a 7 ans et Gauthier qui a 5 ans, allaient à l'école. Et là, on se dit que l'année prochaine, ils vont plus y aller. Et on chemine plus vers quelque chose... inspiré de André Stern, qui a son livre « Je ne suis jamais allée à l'école ». Il y a Jean-Pierre Lepris aussi autour du CREA. Alors CREA, ça veut dire...
Cercle de réflexion sur l'éducation authentique.
Voilà, éducation authentique. Et donc Jean-Pierre Lepris qui a écrit un livre qui s'appelle « La fin, F-I-N, de l'éducation, virgule, le commencement ». Et donc je vais conclure en disant, en fait, on tend vers... pas de démarche éducative, justement. On n'a pas envie d'avoir une démarche éducative, mais d'être à l'écoute de... voilà, qu'est-ce qui enthousiasme mon enfant à l'instant T et comment je vais entretenir ça. Plutôt que dire, allez, aujourd'hui, on va faire géo, on va faire maths, on va faire... mais d'être à l'écoute de ce qui est vivant pour eux, quoi. Donc, c'est pas une démarche éducative. Enfin, tu vois ce que je veux dire.
Vous n'allez pas les mettre dans un parcours éducatif, vous allez les laisser faire, entre guillemets, leur chemin et puis les accompagner.
Et le chemin, en fait, qui est compliqué, c'est soi-même, en tant que parent, être bien dans qui on est et qui on a envie d'être pour pouvoir les encadrer, les structurer, qui soit dans un milieu... qui soit un modèle qui soit un modèle. Enfin, de toute façon, quel que soit le milieu dans lequel ils sont, ils apprennent. Donc.
Pascal ?
Oui, ce qui est important dans ce que dit Annick, il y a plusieurs choses très importantes qu'a dit Annick. Le terme officiel de ça, c'est parce que c'est encadré. Ne pas mettre ses enfants à l'école, des fois, beaucoup de gens croient que c'est interdit, c'est autorisé. Tout ça s'appelle l'instruction en famille. Donc il y a une obligation d'instruction en France. Donc il y a des contrôles des services sociaux et de l'éducation nationale qui vérifient qu'il y a effectivement obligation d'instruction. Dans ce qu'a dit Annick aussi, ce qu'on peut en voir, c'est des choix au sein de la famille. C'est-à-dire c'est le foyer d'Annick et Thomas avec Anne et Gauthier qui font ce choix. Nous, Delphine, Pascal, Nawel, Swan, on a notre choix de famille. Il n'y a pas de projet éducatif. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Il n'y a pas au château partagé, il n'y a que de l'instruction en famille. Il n'y a pas du tout ça. C'est vraiment du ressort de la famille. Après, il y a entre parents et entre voisins qui partagent des sensibilités communes et qui sont en réflexion sur ces sujets-là. Il y a évidemment du partage, comme il déborde. C'est-à-dire qu'il y a des réseaux. Il y a un réseau Instruction en famille 73, Instruction en famille 74 sur la Haute-Savoie. Donc, c'est des gens qui fonctionnent en réseau. C'est un vrai sujet de travail, de réflexion. Ça ne se fait pas... Ça se fait pas comme ça.
Luca, sur ce sujet, je voulais vous demander, est-ce que les enfants participent à ces choix ? Par exemple, si un jour votre enfant vous dit « moi, j'ai envie d'aller au lycée
». Bah, il ira au lycée.
En fait, est-ce qu'ils prennent parti à ces choix-là ?
Ah, bien sûr, oui. Ouais. Là, nous, le choix de... Gauthier, tous les matins, il se réveille en me demandant s'il va à l'école ou pas. Et si, quand je lui dis qu'il y va, il y a comme une chape de plomb qui est sur ses épaules. Voilà. Et en fait, c'est vraiment aussi... Enfin, c'est ce que j'expliquais, c'est leur écoute. Et s'ils ont envie d'y retourner, c'est OK. Et Yann, c'est pareil, l'aîné, on en a discuté avant. Mais s'il veut y retourner, ben, il y retourne, on n'est pas... C'est leur vie.
Ça me rappelle.
C'était le sens de ma question.
Ouais.
Ok, parce que ça, je ne peux pas imaginer comment peut se passer en fait le dialogue avec des enfants de cet âge-là. Moi, j'ai pas cette expérience. Et donc voilà, j'imagine comment est-ce que vous les intégrez dans ces discussions, comment est-ce que vous partagez ces choix avec eux.
C'est un très vaste sujet. Pour ça, on l'a dit au tout début, quand on commence à parler des enfants, c'est un vaste sujet parce que c'est toute une organisation de société qui est organisée autour d'un certain modèle sur lequel les parents vont travailler, les enfants vont à l'école, les enfants doivent être enseignés. Il y a des gens qui savent, des gens qui ne savent pas. Il faut qu'on enseigne des choses aux enfants pour qu'ils les apprennent. Il y a tout ça. Par exemple, quand tu dis comment est-ce qu'on les intègre, on n'intègre pas des enfants dans une discussion. Comme je choisis pas de t'intégrer à la discussion, on discute, on est dans une relation, et ça se passe, c'est dans la vie. Et c'est le plus difficile dans le fait de pas mettre ses enfants à l'école, c'est pas pour les enfants, c'est pour les parents, la quantité de choses qu'il y a à déconstruire par rapport à ça, la quantité d'imaginaires qui sont très très profondément enfouis là-dedans, en nous, et il est là le gros enjeu. C'est ça la grande difficulté.
Ce que je vais vous proposer, c'est qu'effectivement, un de ces quatre, on revienne et puis qu'on en discute, parce qu'effectivement, il y aurait plein de choses à creuser. Je pense qu'on va reprendre un tout petit peu de hauteur et reparler du château partagé. Donc, les gens qui sont intéressés par ces thématiques-là sont invités à écouter les émissions qui viendront. Ben, puisqu'on parlait des questions qui demandent pas mal de réflexion, peut-être, est-ce qu'il y a des questions de spiritualité au château partagé ?
Est-ce que, ça veut dire quoi ? Est-ce qu'il y a
parce que de la même manière que vous posez des questions autour de l'éducation, est-ce que vous avez des gens qui sont de sensibilités religieuses différentes ?
Moi, je dirais, c'est comme pour l'éducation, c'est du ressort de la sphère privée. Ça ne nous interdit pas, évidemment, d'échanger dessus. Il y a des sensibilités différentes, ceci étant, on l'a dit tout à l'heure un peu rapidement, on est assez monoculturel, c'est-à-dire qu'on est tous des trentenaires, quarantenaires, blancs, à peu près dans la même tranche de revenus, avec plutôt un système de valeurs commun. Je ne crois pas qu'on... Par exemple, personne n'est de religion musulmane au château, je ne crois pas, en tout cas, on n'a pas échangé dessus. Voilà, donc c'est... après, qui est...
Mais
que
ça
chaque,
pourrait,
chaque,
quoi. Ça pourrait.
Ouais. Mais il n'y a pas de... Enfin, c'est du ressort de la sphère privée, c'est ouvert, chacun échange, je crois, assez librement là-dessus quand il le sent. Voilà.
J'ai rien à rajouter. Mm-hmm.
C'est ouvert.
Ok. Vous parlez d'un système assez monoculturel.
Je n'aurais pas dû dire un truc comme ça.
Mais bon, ici on a bien parlé de permaculture. Quel rapport vous entretenez avec la monoculture ? Enfin, non pas avec la monoculture, parce que je pense voir quel rapport vous entretenez avec, puisqu'on en a parlé longuement. Quel rapport ? Est-ce que vous avez une réflexion permaculturelle ? Est-ce que vous avez fait le design permaculturel de cet endroit-là ? Ou est-ce que je parle chinois quand je parle de design permaculturel ?
Tu parles chinois. Ouais, et c'est bien pour ça qu'on attend avec hâte le stage de permaculture.
Après, j'ai envie de rebondir là-dessus parce que finalement, quand tu as dit c'est monoculturel, effectivement, moi je parlais culture, la culture qu'on partage. Et bon, voilà, c'est des réseaux, comme dans beaucoup de domaines. Ceci étant, on a une vraie volonté de faire venir, y compris des gens qui ne nous ressemblent pas, et si possible, peut-être même parfois en priorité des gens qui ne nous ressemblent pas. Parce que c'est important, parce qu'on aime ça, on apprend des tas de trucs là-dedans. Mais c'est pas une volonté d'être monoculturel. Il se trouve qu'on attire des gens qui trouvent ça cool et que les gens qui trouvent ça cool, c'est plutôt des gens qui nous ressemblent.
Et même un peu plus loin que l'histoire de la permaculture, par rapport à la décroissance, à l'autonomie alimentaire, à la descente énergétique qu'on est en train de vivre, est-ce que vous avez une réflexion par rapport à ça ?
En fait, c'était dans les valeurs, si tu veux, de sobriété heureuse. Mm-hmm. Voilà. Ça, c'est dans les valeurs. On travaille quasi tous à mi-temps, on ne gagne pas des milliers, des cents, voilà.
Je suis en train de penser que la question des enfants, telle que vous la décriviez, j'imagine que ça devait être quelque chose qui nécessite d'être disponible. Et en tout cas, vous aviez un rapport au temps qui était probablement dans la relativement permaculture. Utiliser des solutions simples et lentes.
Ouais.
Lentes, je sais pas, parce que finalement, quand il faut beaucoup de temps pour... Si tu dis, je veux beaucoup de temps pour pour être avec les enfants, des fois...
Je dis qu'il fallait être disponible.
Ouais, il y a cette notion-là qui est importante. Mm-hmm. Après, par rapport à ce que tu parles, disons, d'une manière générale, autour de la décroissance, de l'autonomie, toutes ces choses-là, moi, il me semble ce qui est peut-être le plus représentatif d'une volonté du lieu ici, du projet qui se déroule ici, c'est ce qu'a dit Yannick au tout début sur le fait d'être sur un territoire. C'est-à-dire, il y a cette notion d'échelle, jusqu'où on va chercher les choses. On fonctionne pas mal avec les marchés locaux. Thomas va vendre son pain sur une AMAP qui est pas très loin, où il y a des marchés de producteurs, des choses comme ça. Il y a beaucoup cette notion, et y compris sur l'énergie, où il y a cette notion de se réancrer dans un territoire et d'utiliser, de se baser sur les ressources qui sont disponibles sur le territoire. Aujourd'hui, bon, elle était déjà là avant que le groupe s'installe ici, mais il y a une chaudière à bois déchiqueté sur le lieu. C'est les paysans d'à côté qui viennent avec leur tracteur et c'est du bois du coin. Donc cette notion de relocaliser l'économie, enfin l'économie, l'alimentation, enfin l'ensemble des choses qu'on utilise, voilà, elle est assez représentative peut-être de ce qu'on cherche à faire.
D'accord, donc ça résonne bien avec la notion de biorégion qu'on utilise en permaculture. Mmh.
Tu posais la question au début, là, si ça avait changé quelque chose que Thomas soit au conseil municipal. Mmh. Et là, ça me renvoie à ça, c'est que maintenant qu'il est au conseil municipal, on est encore plus finalement au courant des actions locales. Et voilà, ça nous permet d'être encore plus en lien avec le territoire, je pense.
Oui, ça permet, c'est vrai qu'il y a une... Disons qu'on est classé dans les alternatives, quand même, ce qui se passe ici.
Ah plutôt... bon
ouais, ce sera,
voilà. Ah oui, tout le monde ne fait pas ça.
Donc c'est un...
Quel scandale.
Mais on a un vrai enjeu à... C'est une formulation qui est propre. À gérer notre niveau de compatibilité.
Avec quoi?
Bah avec les non-alternatifs. Mm-hmm. Disons, c'est pas des termes qu'on utilise. Je crois pas qu'on se dise alternatifs, mais... Ou les institutions locales, la communauté de communes, la commune, comment est-ce qu'on fait des événements ensemble, comment est-ce qu'on peut se comprendre.
À faire société sans faire sécession. Quoi.
Voilà. Voilà. Et ça, c'est peut-être quelque chose aussi qui a évolué avec le fait que Thomas soit au conseil municipal. Parce que du coup, on rencontre un peu plus des élus locaux, on a plus l'occasion de discuter. Voilà.
Bon, ben c'est bien, ça boucle bien cette émission. On retourne sur notre petit départ. On a la chance d'être en public, du coup on va peut-être demander s'il y a des questions du public autour de ce qu'on vient d'entendre. Il y a 50% du public prend des notes. Bientôt vous ne serez plus dans l'alternative si ça se trouve. Oui.
Oui, donc bonjour. Hein,
bonjour.
Oui, moi j'ai une question quand même, parce qu'il y a des conditions pour d'entrée, il y a des périodes d'essai, les gens, je sais pas, est-ce qu'il reste vraiment, combien d'appartements il resterait? Des choses comme ça, et qu'est-ce qui est prévu pour les nouveaux habitants s'ils veulent habiter? Qu'est-ce qu'il faut exactement pour le nouvel habitant s'il veut habiter avec les conditions dans les grandes lignes?
Ok. Alors, les conditions d'entrée aujourd'hui, hein, qui seront peut-être pas les mêmes dans 2 ans, aujourd'hui, on rachète des parts. Donc, pour arriver, il faut avoir 140 000 euros pour racheter 140 000 euros de parts de SCI. Parce que c'est le nombre de parts que tout le monde a. Et le processus d'intégration, c'est 6 mois. Donc il y a 6 mois en location avant d'acheter. Et au cours de ces 6 mois, à tout moment, on peut dire « ben non, en fait, ça ne me parle pas de venir habiter là ». Et on a... récupérer les critères du bouquin de Diane Alif, Vivre autrement. Il y a 6 critères. Et donc, elle dit assez bien, d'ailleurs, que quelqu'un qui veut venir en habitat groupé, en fait, et qui vivra bien en habitat groupé, c'est quelqu'un qui n'en a pas besoin, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui... Bon, il y a 6 critères, 26 ou 7 critères, c'est-à-dire savoir être souverain, se connaître, enfin, bon, voilà, tout ça. Donc, on a pris ces critères-là. Et les 15 premiers jours, donc dans ce qu'on a écrit, hein, les 15 premiers jours, à la fin des 15 premiers jours, on fait un premier point autour de cette grille-là, dans les deux sens, hein, parce que les arrivants, ils ont plein de choses à nous renvoyer aussi. Au bout de 3 mois, on refait un point, et au bout de 6 mois, on fait le dernier point et on dit « Ok, c'est bon, c'est parti, tu peux acheter, ou pas encore, hein, au bout des 6 mois. »
Les deux parties donnent leur avis.
Voilà, c'est ça. Et... ils ont des parrains, les personnes qui arrivent, elles ont des parrains, donc elles ont une personne, parrain, marraine, une personne référente à qui elles peuvent dire à tout moment.
Et ça, c'est une condition.
Bah, en fait, c'est nous qui désignons.
On notre part et on choisit un parrain.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ça fait partie de. Ouais.
Et en fait, avant ce qu'a décrit Yannick, parce que avant qu'il y ait cette période d'intégration, alors la première condition, c'est qu'il faut qu'il y ait une place.
Oui.
En fait, c'est que c'est, ça sert à, enfin, comment dire, ça sert à, ne nous appelez pas pour venir habiter ici. Le jour où il y a de la place, on fait de la pub. Donc, c'est pas la peine de téléphoner. Mais donc, il y a une première phase, en fait. Alors, c'est pas un terme très heureux qu'on avait appelé sélection, ça fait un peu tri, mais qui est qui va rentrer dans cette période de 6 mois. Et celle-là, elle a duré 3 mois sur la dernière fois où c'est passé. Et il y a un enjeu de. Que personne tombe dans un piège, en fait, que personne se retrouve dans un truc. Et donc, ça s'est rythmé. On envoie l'information, disant voilà, il y a un logement qui se libère, qui est intéressé. On donne autant d'infos que possible pour que les gens sachent de quoi il s'agit, ne serait-ce qu'une taille d'appartement, parce que où est-ce qu'il se situe en l'occurrence, il se situait au 3e étage. Donc, ça ne marche pas pour des personnes âgées, ça ne marche pas. Enfin, voilà. Il y a certaines contraintes. Et puis après, on s'est vu avec des gens donc, qui n'habitaient pas là encore. Tous les postulants, les impétrants, viennent un week-end par mois pendant 3 mois. Donc il y a 3 week-ends où tout le monde se retrouve, y compris les différentes familles qui veulent venir. Et puis là, donc, c'est sur une journée, il y a différentes activités, et chacun est invité ou pas à revenir au week-end suivant. Et là, sur le dernier coup, du coup, c'était assez... Enfin, c'était fluide. C'était le premier week-end, ils étaient 3. Le deuxième week-end, ils étaient 2. Et le troisième week-end, bah, dans la discussion, tout le monde était d'accord que c'était eux, là, Guillaume et Mariette, qui partaient pour les 6 mois.
Donc, et on a fait une fête.
Et on a fait une fête. Mmh. Voilà.
Pour dire, ok, allez, c'est parti, on y va.
Donc en tout, quasi, ça a duré 9 mois.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Juste pour compléter la question, peut-être dans les conditions, est-ce qu'il y a des conditions professionnelles? Lui, vous parliez beaucoup de cette multi, toucher un petit peu tous les secteurs d'activité, etc. Donc est-ce qu'actuellement, dans vos prochaines recrues, en guillemets, est-ce que vous mettez une condition?
Non, pas pour l'instant. Tu dirais.
En fait, je ne peux pas m'empêcher de dire que de penser que cette question est plus compliquée que ce qu'elle a l'air. Parce que. À partir du moment où on dit dans la vie du château partagé, il est important qu'il y ait une activité agricole, une activité de boulangerie et certaines activités tertiaires, quasi indépendamment des gens qui habitent ici, on dissocie le fait qu'il y ait des activités du fait d'habiter, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas à recruter des gens. Je pense pas qu'on aille à recruter des gens qui habitent et qui fassent le métier dont on a besoin pour alimenter le truc, pour que le projet d'ici soit pas dépendant de l'arrivée ou du départ de quelqu'un. C'est-à-dire, je sais pas si ça répond, si ça éclaircit ou si c'est encore plus confus. Il y aurait une autre manière de dire que si quelqu'un venait et travaillait chez SIAD pour fabriquer des chars d'assaut, ça pourrait faire partie des critères. Je sais pas comment ça marcherait. Ou dans le tabac, ou je sais pas dire. J'imagine que ce serait pas a priori fermé, mais que ça sera un sujet de discussion intéressant.
Après aussi, aujourd'hui, il y a Brice, le tissier, qui fait du pain avec Thomas et qui vient travailler là sur l'activité professionnelle, mais qui n'habite pas sur le lieu. Donc voilà, on cherche pas forcément un maraîcher, un boulanger. Il peut venir aussi. Sans habiter là, travailler sur le lieu. Et le projet d'ailleurs de bureau, on a fait travailler un architecte, l'atelier 17C en octobre, aussi en octobre 2014. Et il y a l'envie de créer un bureau, un coworking. Et voilà, on se dit que ce coworking, ça peut très bien être un espace aussi où il y a des activités secteur tertiaire, avec des personnes qui n'habitent pas forcément sur le lieu, mais qui viennent là y travailler.
Lucas avait une question.
À l'inverse, il peut y avoir des personnes qui voudraient vivre ici, qui travailleraient peut-être loin ou pas à côté, et qui n'auraient du coup qu'une présence très limitée sur le lieu pendant la semaine. Est-ce qu'il y a une condition à ce sujet-là, en fait?
Moi personnellement, je trouve que ça a peu de sens d'être là que pour dormir et d'aller travailler loin toute la semaine. Ça, c'est mon... Voilà. Si on a plusieurs personnes, voilà, c'est peut-être... Ça pèsera dans la balance pour moi, parce que je trouve que ça a vraiment du sens d'habiter le lieu et d'y amener ses compétences, d'y amener qui on est, pour tous les habitants du lieu et du territoire. Après, c'est sûr que si c'est quelqu'un qui est génial et qui est bourré d'enthousiasme et qui travaille super loin, bah ok, peut-être que ça le fera aussi, mais c'est pas un critère en soi, pour moi.
Ouais, pareil. En fait, la seule contrainte, ce serait... C'est encore en lien avec ta question, c'est je contacte Shadow Partagé, je veux venir habiter ici et travailler, et j'ai besoin de venir avec un outil de travail, d'une certaine manière, qui n'est pas existant. Je sais pas, moi je suis...
Menuisier
ou ferronnier, et donc j'ai besoin d'installer ma ferronnerie ici. Et donc ça du coup c'est plus au groupe, à la SCI, je dirais beaucoup à la SCI, de dire oui, est-ce qu'on veut un atelier de ferronnier? Donc déjà, enfin, comment on le fait rentrer, l'activité de ferronnerie? Et puis le jour où le ferronnier s'en va, qu'est-ce qu'on en fait de cet atelier de ferronnerie? Parce que on se rend dépendant à la présence d'un métier, d'une personne qui génère des choses pas très simples. Mmh. Voilà. Oui.
Il y a une question bien aussi écologique, hein, pour le chauffage de... Est-ce que les panneaux solaires ou tout ce qui est... Bon, l'éolienne, c'est très moche, mais les petits trucs à vélo avec de l'eau, là, les petites choses hydrauliques, est-ce que vous songez aussi à être plus autonome, ou est-ce que vous avez des facturations dépendantes d'eau et de consommation d'énergie EDF?
Alors, Annick dit que c'est une question pour moi, parce que, en fait, je suis énergéticien. Donc... C'est le château partagé. J'avais dit, ça fait 2 ans que j'habite ici, j'avais dit la première année, je n'y regarde pas pour ne pas me faire du mal. Et donc, j'y ai regardé. Ça y est, j'y ai regardé. bon, on n'achète pas électricité chez EDF.
Vous êtes chez
EDF. Ça, c'est venu assez vite, on achète chez Enercop.
Ah,
ah ouais. C'est bien. C'est bien. Donc, ça, voilà. Plus 5 points. Donc, je vais répondre avec les choses faciles, qui rapportent des points. Donc, on a une chaudière à bois déchiqueté. On brûle beaucoup de bois. Et on a, je crois, un des pires systèmes de production d'eau chaude sanitaire que j'ai rencontré ces 10 dernières années. Donc, dans l'ensemble, c'est pas terrible. Si ta question sur du point de vue énergétique, c'est pas terrible, notre château. On y travaille dans le projet qu'on mène donc avec Atelier 17C, avec l'architecte, et pour lequel, du coup, j'interviens un peu comme bureau d'études quand même.
On y
retouche.
Oh là là.
Voilà, donc on retouche à tout ça. L'enjeu, et c'est... je vais pas faire la pub pour mon livre apparaître. Mais l'enjeu, en fait...
Tu pourrais.
Mais pour ça, c'est un très bon exemple. En fait, sur les questions énergétiques des bâtiments, ce qui consomme de l'énergie, c'est pas les bâtiments, c'est le fait qu'il y ait des gens dans un bâtiment. Et donc, quand on veut diminuer les consommations énergétiques, il y a deux manières de le travailler. On travaille avec de la technique bâtiment. On isole, on met des ventilations, on met du bazar, quoi.
Ouais, ou alors on bute des habitants.
Ou bien on travaille sur les gens.
Ah, non.
Donc, par exemple, comme tu proposes...
Non.
Et c'est dans le dialogue des deux que ça va fonctionner. Voilà. Donc c'est un projet qui se mène de cette manière-là. Un peu.
Parce que les panneaux solaires, par exemple, ça, c'est un truc très rentable, même pour chauffer l'eau, je pense.
Alors, dans le projet, il y a 3 6, on bascule la production d'eau chaude sur un système solaire, sur 3 systèmes solaires mis en parallèle. Voilà. C'est pas tout de suite.
Oui.
On voudrait savoir si vous avez une vision idéale commune, en fait, vous partagez, et donc sur ce château partagé. Et quelles sont les prochaines vos priorités, les prochaines étapes de développement les années à venir?
Est-ce que la question, c'est une vision matérielle sur comment sur le lieu, ou une vision spirituelle?
Non, pas spirituelle, mais l'idéal de vie, à la fois au niveau de l'organisation, des activités, de ce que vous pouvez proposer à l'extérieur aussi.
Oui, nous avons une vision. On a des super beaux plans. Qui sont en lien vraiment avec le travail du groupe Fondation, donc les organigrammes, gérer les échanges qu'on a envie de poser. Les plans, ils ont été faits par l'architecte Jacques-Félix Faure, là, récemment. Il est venu longuement nous écouter, et suite à ça, eh ben, il y a des plans qui se sont incarnés. Et le prochain pas, c'est de déplacer les chambres d'hôtes qui sont pour l'instant en plein milieu de la bâtisse, sur un espace extérieur. Ça pour qu'on ait plus de place pour des nouveaux habitants et réduire les conflits d'usage. Souvent, les autres, ils sont un peu paumés dans les escaliers. C'est où les champs, enfin. Et le hangar, du coup, l'espace agricole qui est pour l'instant au hangar, là où il y a le projet des chambres d'hôtes, c'est de créer un hangar plus fonctionnel et facile d'accès, proche des champs. Je ne sais pas si tu veux compléter, Pascal. Bon.
Ça répond, oui, du coup, effectivement, Annick a répondu sur le lieu. Ce qui est très frappant, en fait, et qu'on voit depuis qu'on travaille... On travaille en parallèle sur le lieu, la gouvernance et les structures qui portent tout ça, c'est à quel point finalement le lieu exprime notre clarté et notre projet. Mm-hmm. Aujourd'hui, tout est mélangé. C'est-à-dire, ça se croise dans tous les sens, ça se marche sur les pieds, ça déborde, les gens rentrent. Non, j'exagère un petit peu. Mais c'est assez croisé. Ce qui avait frappé l'architecte quand il est venu, c'est... il y a le cheval qui traverse pendant que les enfants sortent, alors que les autres doivent croiser les appartements. C'est parce que c'était pas organisé comme ça d'origine.
Et alors, j'aime bien parler du postier, parce que le postier est souvent vraiment perdu, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe ici?
et en fait, quand Annick décrit le prochain pas, c'est-à-dire de sortir les chambres pour le mettre à part, c'est beaucoup un travail de clarification pour que chacun soit en sécurité dans ses espaces. Et ça peut se placer. Ce que je dis là, ça se place au niveau physique, organisation du lieu, comme un peu plus élevé, je suis à ma place dans le groupe, chacun sait ce qu'il a à faire et c'est fluide. Donc c'est beaucoup ça, c'est organisé, chacun est en sécurité, il y a des frontières perméables pour qu'on puisse échanger, mais il y a différentes zones d'intimité, enfin, on rejoint ta question du début. Et l'idéal, c'est ça, c'est qu'on puisse aller du très public jusqu'au très intime, de manière claire, lisible pour tout le monde. Et moi, j'ajouterais un truc. J'aimerais que Alors, ça commence à se sentir, le château recommence à attirer, il me semble, mais que ça rayonne. C'est-à-dire qu'il y ait... Il y a cette notion de richesse. Alors, souvent, richesse, on pense argent, mais que ce soit vraiment un lieu qui génère une richesse sur le territoire et une richesse sur tous les plans. Voilà.
Ok, ben merci beaucoup de nous avoir reçu aujourd'hui, cette belle journée ensoleillée, d'avoir accepté de vous enfermer dans cette salle avec un public fort sympathique au demeurant. Le château partagé, c'est à Dulin, en Savoie, dans l'avant-pays savoyard. Le site internet, c'est
http://www.lechateaupartage.fr.
Ben, on ira visiter et puis on ira faire un tour sur le site pour savoir ce qui se passe au château de temps en temps, parce que aussi des activités culturelles, des stages, on aurait pu encore en parler. Merci beaucoup, belle fin de journée à vous.
Merci.
Merci.
Au revoir.
C'est la fin de ce numéro de Acte 2, une balado-diffusion de l'association du Passage à l'Acte par Flo M. Sève. Merci de nous avoir écoutés, merci d'avance de partager ces sons avec les gens qui vous entourent, de les faire circuler largement, car nous refusons l'industrie de la publicité, nous préférons et de loin la réputation que vous nous faites. Pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous commander des formations, des conférences ou des animations, nous faire un don et bien sûr guetter nos prochaines publications. Rendez-vous très bientôt sur absala.org, onglet podcast, texte ou formation.